Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie.
Omaha.
We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery.
Yeah!
Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous preview de draft sur les antennes de Touchdown Actu pour ce 416e numéro donc des épisodes de Touchdown Actu, donc consacré spécifiquement à la draft. Comme je le disais, on arrive donc, on entre dans cette dernière ligne droite qui nous amènera donc au repêchage du 29 avril prochain. On terminera d'ailleurs au cours de cette semaine la partie offensive avec des positions qui vont être très très suivies pour cause. Il y aura un contingent très très important à surveiller au cours des prochaines semaines, le contingent des receveurs et des tight ends. Les cibles de cette draft 2021, c'est le sujet de cette émission et c'est en compagnie de mon camarade Jean-Michel Boujard. Salut Jean-Mi.
Hey, salut Greg, bonjour à tous.
Très heureux d'être avec toi et d'être avec vous en effet pour ce nouveau numéro. En effet, il y a beaucoup de choses à dire. Va y avoir en effet, on aurait pu tout simplement faire un podcast de 3 heures tellement il y a de noms, de candidats intéressants, de profils différents. On a essayé d'être le plus synthétique possible tout en mettant en valeur donc les joueurs les plus en vue, les joueurs les plus à surveiller durant cette période. Donc on démarre tout de suite notamment avec les premiers chapeaux dans cette émission.
Hey, what's up? This is Nate Burleson, 11-year NFL vet, all over the place in TV right now, and you are listening to the Touchdown Podcast.
Et le premier chapeau, donc, qui sera notamment consacré à des joueurs qu'on a évoqués, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, dans le podcast Top 15, que vous pouvez toujours retrouver sur le site TDA ou sur la page YouTube, notamment sur les nombreuses plateformes sur lesquelles sont diffusées l'émission. Donc, le podcast Top 15 qu'on a fait il y a quelques semaines de ça, que je vous invite à retrouver. Ça ne va pas nous empêcher, Jean-Michel, de refaire un petit peu la même logique, on dirait, que sur le poste de quarterback, en évoquant donc quatre joueurs, notamment de ce premier. Chapeau donc, on a Ja'Marr Chase, receveur d'LSU, Devonta Smith et Jalen Waddle, tous les deux receveurs d'Alabama, et Kyle Pitts, tight end de Florida. Je vais juste rapidement redonner les mensurations, les stats notamment. Alors Jamar Chase, donc c'est 1m85 pour 94 kilos. C'est stats de 2019, puisqu'on rappelle qu'il n'a pas joué cette saison. Donc c'est 84 réceptions, 1780 yards et 20 touchdowns. Donc hein, lui qui était la cible préférentielle pardon, de Joe Burrow à l'époque, avec un titre de meilleur receveur à l'issue de la campagne 2019, ce n'est pas rien. Son successeur en 2020, donc Devonta Smith, c'est 1m85 pour 79 kilos. En 2020, c'était 117 réceptions pour 1856 yards et 23 touchdowns. Jalen Waddle, c'est 1m78 pour 83 kilos, 28 réceptions pour 591 yards et 4 TD. On rappelle qu'il était blessé assez rapidement cette année. Et puis Kyle Pitts également, donc le tight end des Gators, donc 1m98 pour 108 kilos, 43 réceptions, 770 yards et 12 TD. Jean-Michel, du coup, si on prend certains profils, si on te met dans la peau d'un general manager aujourd'hui, lequel de ces 4 prospects pour toi est le plus physique ?
Oh, Jamar Chase. Jamar Chase, le receveur Jamar Chase. Pour moi, c'est lui le plus physique. Alors, bien sûr, on peut parler du Titan Kyle Pitts aussi, mais je commencerai avec Jamar Chase. Il y a une expression, tu vois, aux États-Unis, ils disent souvent « bigger than his size ». Désolé pour mon accent. Mais en fait, mais ça veut dire qu'il joue vraiment beaucoup plus physique que sa taille. C'est-à-dire que Jamar Chase, en fait, quand on l'a vu en 2019, tu le vois jouer, il t'impressionne, tu dis, waouh, ce mec, il fait au moins 1m90, il est super costaud. Et puis après, tu regardes un petit peu ses mensurations, mais il fait tout juste 1m80, quoi. Mais quand tu le vois jouer sur le terrain, on dirait vraiment, il domine tout le monde. Très, très physique.
C'est ça. C'est presque ce qui est paradoxal, et c'est ce qu'on a souvent souligné avec Kyle Pitts, c'est que Kyle Pitts apparaît peut-être un peu moins physique pour un tight end que ce que peut apparaître Jamar Chase pour un receveur. Et c'est là-dessus, en effet, surtout voilà, quand on a cette capacité de toute façon à être hyper impressionnant contre les press corners, comme on les appelle. Jamar Chase, en l'occurrence, il a quand même certaines assurances à ce niveau-là, et ce sera à ne pas négliger dans le cursus de la draft. Le receveur le plus explosif, ou en tout cas la cible la plus explosive à tes yeux. J'ai une petite idée là-dessus.
Oh, Jalen Waddle.
Ouais, par exemple.
Ah ouais, par exemple, ouais. Ouais, 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 c'est le genre de gars, tu lui donnes le ballon, même sur une petite slant, une petite screen, et puis il va te gagner 20 yards sans problème. Avec un cut, il accélère, et puis tu le rattrapes pas, en fait. Donc, ah
c'est
oui.
Ça. Il y a deux matchs, notamment, alors on le répète encore une fois, c'est vrai qu'il y a eu sa blessure, notamment, qui va être très épié par les scouts et les équipes en règle générale. Il y a deux matchs, moi, qui me sautent aux yeux, si tu veux voir un petit peu de quoi est capable Jalen Waddle. Il y a ce match contre Georgia en début d'année, forcément, où en plus, vu l'opposition au poste de corner, c'était assez notable. Et de mémoire, je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que le match contre Auburn l'année passée, il avait fait un petit festival également. Je crois qu'il doit marquer 3 TD sur ce match-là, et il avait vraiment été assez dominant et extrêmement explosif également. Même dans un rôle un peu plus discret, il avait quand même réussi à crever l'écran, et c'est vrai que c'est là où on voit le panel assez vaste. Et en tout cas, ce que recherchent encore plus les équipes NFL aujourd'hui, c'est des joueurs hyper explosifs. Et sur ce quatuor, je te rejoins, c'est vrai que Waddle présente le plus de capacités. Qui a la meilleure capacité de tracer ?
Je dirais Devonta Smith, parce qu'il est très précis. Et en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est très précis dans beaucoup de zones. C'est-à-dire qu'il va être très précis dans le slot, il va être très précis à l'extérieur. Moi, je pense à Devonta Smith. En plus, avec sa vitesse, ça le fait. Mais il est vraiment très précis dans ses tracés.
Ouais, tout à fait. Alors, tu m'excuses pour la question piège, mais on sait que l'année dernière, Jerry Jeudy, par exemple, qu'on peut un petit peu comparer à Devonta Smith dans cette logique-là, était considéré comme beaucoup comme peut-être le meilleur réalisateur de tracé, si je peux parler ainsi. Est-ce que Devonta Smith, ça t'impressionne encore plus? Ou est-ce que il est peut-être plus complet, mais il est peut-être pas aussi fort que Jeudy dans ce domaine-là?
Oui, voilà, c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que j'étais plus impressionné encore par Jeudy l'année dernière en tant que route runner. C'était vraiment c'est l'école même. Tu regardes Jerry Jeudy courir ses tracés, c'est exceptionnel. Et je pense qu'il va vraiment beaucoup plus réussir que ce qu'il a fait avec Denver sa saison rookie. Devonta Smith, c'est plus parce que, comme tu dis, il est complet. Avec en plus la vitesse, avec en plus il a de meilleures mains. Mais il court très bien les tracés. Alors c'est pas au niveau de Jerry Jeudy, mais quand même.
Sur ce quatuor, qui pour toi a les meilleures mains?
Les meilleures mains, moi je dirais Kyle Pitts. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui relâche aucun ballon. Mais j'ai pas souvenir de l'avoir vu relâcher un ballon. Donc ouais, voilà. Il s'impose physiquement. Et puis alors en red zone, puisque c'est souvent là qu'on utilise le tight end, il est très 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 fiable. Il a des super mains.
Oui, et puis on rappelle encore une fois, c'est vrai que c'est ce tight end qui a la capacité notamment d'être utilisé face à des corners assez régulièrement. Et en effet, même avec la vivacité d'un corner en face, justement, même face à des joueurs un peu plus presse, alors encore une fois, il y a du gabarit en face, hein, c'est sûr. Mais c'est vrai que voilà, il y a quand même cette concentration. C'est vrai que les drops, c'est pas forcément sa marque de fabrique. On parlera peut-être de son coéquipier à Florida où ça a peut-être sauté un peu plus aux yeux, notamment au Senior Bowl. Lui, en tout cas, pour l'instant, il n'inquiète pas spécialement dans ce domaine-là. Les aptitudes en un contre un, justement.
Ah, Jamar Chase. Il est vraiment impressionnant. Pour tout ce qui est catch contesté, il est impressionnant. Il peut attraper le ballon au-dessus de la tête du corner, il peut l'attraper en extension en étant dans ses bras si la balle n'est pas tout à fait bien lancée. En un contre un, Jamar Chase, c'est un diable.
Très bien. Là, je te rejoins encore une fois. C'est sûr que il avait en tout cas cette capacité, cette vivacité sur la menace profonde. Mais on a vu, en effet, on en parlait lors d'un précédent podcast, que vu l'opposition qu'il a eue face à lui sur certaines rencontres, il s'en était plus que bien sorti, en effet, de par cette aptitude. Côté personnalité, si tu devais choisir un leader de vestiaire, je dirais un joueur en tout cas avec une personnalité vraiment forte, vers qui irait ta préférence?
Ben écoute, je vais peut-être un petit peu biaiser. Moi, je prendrais la personnalité de Devonta Smith, et pas dans le sens leader de vestiaire, mais dans le sens le gars vraiment fiable, c'est-à-dire caractère posé, travailleur. Le peu de fois où je l'ai entendu s'exprimer, voilà, tu sens vraiment le gars, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de soucis extra-sportifs, il n'y aura pas de soucis avec son coach s'il ne joue pas assez. C'est vraiment quelqu'un de fiable. Alors après, c'est plus un leader silencieux, il va donner l'exemple sur le terrain, c'est pas quelqu'un qui peut rameuter les troupes, mais il est vraiment très très fiable. En tant que JM, je le prends et j'hésite pas une seule seconde sur son caractère.
Qui pour toi a la meilleure marge de progression dans ce lot?
Ah, bonne question. Je dirais peut-être Jalen Waddle, finalement. Parce que son utilisation à Alabama, c'est un petit peu, alors je vais pas dire gadget, ou alors je dis gadget, mais c'est pas réducteur. Mais c'est quelqu'un qui peut faire beaucoup de choses. Par contre, on se demande encore s'il peut être un vrai receveur numéro 1. Mais je pense que justement, il a sans doute cette capacité-là. Donc, je dirais Jalen Waddle pour la progression.
Ouais, très clairement. Je prenais l'exemple, encore une fois, de Smith avec Judy. On a beaucoup comparé Waddle avec Ruggs, en effet. On voit Ruggs pour l'instant, même s'il a fait une campagne rookie honorable, je parle sous ton contrôle,
bien sûr.
Également. Voilà, pour l'instant, il n'a pas complètement rassuré sur son aptitude à être numéro 1, mais il n'y a pas non plus. On était très optimiste, on continue de l'être sur sa marge de progression qui reste plus qu'intéressante. Du coup, ton titulaire le plus sûr, le premier jour de la saison régulière.
Devonta Smith. Devonta Smith, ce qu'il a montré, même l'année dernière, quand c'était déjà qu'il y avait aussi Judy, il y avait aussi Ruggs, il y avait plein de monde, il arrivait déjà à tirer son épingle du jeu. Et cette année, ce qu'il a fait, vraiment, il a porté Alabama sur ses épaules. Moi, je pense que dès le premier jour, il est opérationnel. C'est vrai que ce qu'a fait Jamar Chase en 2019, c'est impressionnant, mais vu qu'il a pas joué cette année, c'est pas que j'ai des doutes, j'ai pas de doutes, mais day one, moi je dis Devonta Smith.
Moi, je te rejoins, j'aurais peut-être hésité avec Kyle Pitts.
Sur
une position, encore une fois, mais c'est vraiment de par le prototype du bonhomme. Mais c'est sûr que si on prend d'un point de vue receveur contre receveur, j'ai peu de doutes en effet sur la capacité de Devonta Smith à être sélectionné, surtout s'il tombe dans le top 10 avec pas mal d'équipes qui ont des besoins à ce niveau-là. Il y aura quand même largement la possibilité de l'incorporer massivement dès le premier jour en NFL. On a fait le tour sur ce premier chapeau. Je vous rappelle que vous pouvez encore une fois avoir plus d'informations détaillées sur ces prospects, notamment par le biais des fiches top 15. On avait fait également, lors des premiers podcasts de preview, enfin en tout cas des premiers podcasts draft, des chroniques que tu préfères pour comparer les différents intéressés et leurs aptitudes personnelles. Donc vous pouvez vous référer à ces podcasts-là. On développe dès à présent avec le deuxième chapeau. Quatre joueurs également, deux receveurs et deux tight ends. On va commencer par Rashad Bateman, receveur de Minnesota, 1m85 pour 95 kilos. En 2020, avec la saison écourtée de Minnesota, c'est 36 réceptions, 472 yards et 2 touchdowns. Receveur enfin numéro 1, je dirais, du côté de Minnesota avec le départ de Tyler Johnson. C'est un receveur qui apporte un très bon compromis. On parlait de joueur complet, c'est le cas de Rashad Bateman. Il manque peut-être encore ce petit surplus où on se dit c'est peut-être le joueur qui va réussir à tout exploser en NFL.
Oui, c'est fort possible, oui. Et tu vois, un des doutes, par exemple, avant de parler de ses qualités, c'était un petit peu sa vitesse, son manque de pointe de vitesse, etc. Et puis là, il y a quelques jours, on l'a vu, il a couru un sprint de 40 yards, il a fait 4,39. Donc, entre ce qu'on a vu de ses catchs en deep et ce temps-là aux 40 yards, moi, je suis rassuré déjà au niveau de sa vitesse. Et puis après, bon, voilà, comme tu l'as dit, Rashod Bateman, tu as rappelé ses mensurations, il est costaud. Et ouais. Ça, c'est très, très bien pour ce qui est des catchs contestés, où il remporte souvent la mise. C'est très, très bien également lorsqu'il doit faire des raffus et gagner des yards après réception. Et c'est également bien pour les blocs, parce que c'est important également. Un rookie, s'il n'arrive pas à bloquer en situation de run ou même pour une passe pour un coéquipier, bah, il ne joue pas. Et lui, il va jouer parce qu'il a cette capacité-là.
Ouais. Est-ce que ça te paraît juste si je te dis que ça peut être peut-être le Justin Jefferson de cette classe ?
Oh non, non. Ouais, ça ressemble. Ouais. Ouais, ouais, effectivement. Et même si on vise un peu plus haut, s'il se développe bien, moi, je le vois bien comme un Michael Thomas des Saints.
Oui, aussi, ouais.
Joueur très costaud comme ça, tu vois, qui s'impose.
Très clairement, en tout cas, profil à surveiller, en effet, très complet, physique, et tu le disais, pas si lent que ça, en tout cas, de ce qu'on en voyait au premier abord du côté de Minnesota, qui sort d'une mauvaise saison aussi, donc forcément, ça laisse un peu moins d'indices, on dira, sur sa capacité à être plus performant à l'échelon supérieur. Mais voilà, peut-être quelques petits problèmes d'Europe, j'ai remarqué sur certaines rencontres.
Voilà.
Mais bon, pas au point de choquer, je pense, et au point de le faire descendre. Je doute fortement. Alors, je te l'ai pas dit pour les quatre premiers, parce qu'on avait dit plus ou moins clairement que c'était le premier tour. Si on prend une projection pour Rashod Bateman, c'est un premier tour quasi assuré quand même.
Ah oui, pour moi, oui, c'est un premier tour. Oui, oui, oui.
Bon, je serais pas loin. Vas-y.
C'est un receveur numéro 1. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est le receveur qui va te faire bouger les chaînes à tous les matchs. C'est un receveur numéro 1.
Je suis pas loin de le penser également. On passe à Kadarius Toney, autre receveur, cette fois-ci de Florida. Donc l'autre cible dont on parlait tout à l'heure avec Kyle Pitts. 1m80 pour 86 kg en 2020. C'est 70 réceptions, 984 yards et 10 touchdowns. Donc le receveur le plus productif, en tout cas la cible la plus productive sur le campus de Gainesville en 2020. Là, pour le coup, c'est pas le même profil que Rashod Bateman. Mais c'est un sacré couteau suisse.
Oui, c'est ça, exactement. C'est quelqu'un de très très vif et c'est quelqu'un qui peut faire beaucoup de choses sur le terrain. Moi, tu vois, il me fait penser par exemple à Curtis Samuel, parce que quand tu vois Kadarius Toney, au départ, tu penses plutôt à quelqu'un qui va surtout attaquer la profondeur. Mais en fait, pas du tout, il le fait aussi, mais c'est vraiment pas que ça. C'est quelqu'un qui peut faire beaucoup de choses, tu peux même lui donner le ballon à porter, et comme un coureur, il va le porter. C'est quelqu'un qui, sur des slants, va gagner beaucoup de yards ensuite. C'est quelqu'un qui peut attaquer des tracés dans le slot ou même à l'extérieur. C'est, c'est une arme offensive, une belle arme offensive.
C'est ça. Alors après, encore une fois, je parlais tout à l'heure lors de son Senior Bowl, c'est vrai qu'il il avait un peu perturbé. Alors c'est vrai que pour le coup, ça n'avait pas choqué en plus lors de sa saison du côté de Florida, mais il avait vraiment montré au Senior Bowl, notamment aux entraînements, qu'en un contre un, il restait un joueur extrêmement dangereux, difficilement jouable en tout cas. C'est très difficile de suivre Kadarius Toney dans de nombreux compartiments du jeu, encore plus dans le domaine intermédiaire. Mais c'est vrai qu'il a quand même montré une certaine... un certain déchet au niveau de la réception qu'on lui connaissait pas forcément, et c'est peut-être ce qui a fait reculer un petit peu sa cote. Après, encore une fois, le spécimen est tel. Alors, encore une fois, je suis pas un expert des comparaisons et je veux voir ce que toi t'en penses. Hein. Peut-être que t'as un meilleur exemple, mais c'est peut-être le côté Florida qui me fait dire ça. Il y a un côté Percy Harvin quand même dans le jeu de Kadarius Toney.
Ah oui, aussi. Oui, ça correspond bien. Et tu vois, au niveau des drops, moi je suis pas très inquiet parce que c'est vrai qu'au Senior Bowl, il en a fait quelques-uns et certains qui étaient vraiment marrants, même. Tu disais, mais c'est pas possible quoi. Mais en fait,
quand des drops de concentration.
Mais ouais, je sais pas d'où ça vient sans doute, ou peut-être de nervosité, mais parce que quand tu vois dans sa saison, tu as pas vu ça. Il n'a pas fait ces drops-là, il avait des mains fiables. Donc du coup, je suis pas très inquiet à ce niveau-là. Après, là où je suis un peu plus inquiet, c'est au niveau de son physique, parce qu'il est quand même assez léger, et je pense que face à des press corners, ça va être un petit peu compliqué. Après, il faudra voir, tu vois, c'est un petit peu l'inverse de Devonta Smith au niveau hors-terrain. Il faudra voir un petit peu ce que ça donne, parce que même si les soucis remontent, je crois que c'était en 2018, mais il y a quand même eu des soucis. Je veux dire, il vient pas de Florida pour rien non plus, le gars. Hein. Donc voilà, il faudra voir comment ça joue.
Donc il va finir avec un Badmeyer, c'est ce que tu nous as dit.
Ouais, c'est possible, oui. Bah, il a été pris la main dans le sac avec un flingue dans la voiture, il y a eu des histoires de bagarre, en fait, des choses comme ça, quoi, à suivre.
Il y en a quelques-uns, hein, des prospects avec des flingues dans leur voiture, non ? Ouais. Je sens que c'est ce qu'on avait dit sur Jamed Martin, le running back de North Carolina A&T, donc...
C'est dangereux, les États-Unis, ils sont armés.
Ouais, il paraît. Ouais. Plus dans certains coins que dans d'autres, mais apparemment, du côté de la Floride, ouais, on l'a remarqué 2-3 fois. Ouais. On passe au tight end à présent avec Pat Freiermuth, tight end de Penn State, 1m98 pour 113 kilos. Saison un petit peu marquée également en 2020 par quelques pépins physiques. C'est quand même 23 réceptions, 310 yards, et un touchdown pour le joueur des Nittany Lions. Je dirais presque le joueur le plus complet sur le papier, en tout cas parmi les principaux tight ends, notamment au bloc. Est-ce qu'il y a quand même des points qui t'inquiètent, notamment au niveau de la réception du côté du joueur d'Open State?
Non, la réception, non. Surtout ce qu'il avait montré en 2019 en plus. Non, ça, je suis pas du tout inquiet. C'est quelqu'un qui a vraiment porté son attaque en plus. C'était l'option numéro 1 et il a assumé et de fort belle manière. Donc à ce niveau-là, je suis pas du tout inquiet. Il est costaud, il fait des bons tracés.
On rappelle que les tight ends à Penn State, c'est un peu comme à Notre-Dame ou dans ce genre de programme, notamment ces dernières années. Mike Gesicki, par exemple, sort de Penn State. Hein,
oui.
Donc il y a quand même une culture, mine de rien, pour développer des tight ends efficaces.
Oui, exactement. Donc du coup, il était vraiment utilisé de plein de façons. Il pouvait être sur la ligne, au moins dans l'engagement, ou alors il pouvait être aligné dans le slot. Il a fait beaucoup de choses comme ça. Après, tu vois, au niveau du bloc, c'est vrai qu'en 2019, je l'avais trouvé très bon, très complet. Et puis en 2020, il m'a pas rassuré à ce niveau-là. Alors, il m'a pas inquiété non plus, mais c'est vrai que je le vois pas tant que ça comme un si bon bloqueur, en fait. À voir.
Ouais. Je parlais de ses soucis de santé, ça t'inquiète
oui.
Physiquement sur la durée?
Alors, physiquement, sur la durée, je sais pas, mais c'est vrai que voilà, sa fin de saison prématurée, forcément, ça va être à voir. C'est sûr que le rapport médical va jouer sur son spot à la draft, hein, c'est obligé.
Alors justement, j'ai oublié de te poser la question pour Tony. Si tu devais donner une projection pour Tony et pour Freiermuth, laquelle serait-ce?
Tony, je pense qu'une fin de premier tour, c'est possible, mais franchement, je le vois plus au second. Et puis pour Freiermuth, pareil. Je le vois bien en tout début de second tour. Jacksonville pourrait l'utiliser, les Jets pourraient l'utiliser. Je pense qu'il dépassera pas le pick 40.
C'est ça. En fait, faut voir les priorités, mais j'avais Tony ouais, en 1-2 et ouais, Freiermuth peut-être maximum deuxième partie de deuxième tour, mais c'est vrai que j'ai du mal à le voir descendre un petit peu plus bas en l'occurrence. Malgré en effet certaines incertitudes sur notamment son état de santé.
Ouais.
On passe à... Mais bon, il y aura d'autres cas bien plus particuliers niveau médical que Pat Freiermuth, entendons-nous bien.
Oui.
Et puis, autre tight end également à surveiller, Brevin Jordan, tight end de Miami, 1m92 pour 111 kilos. En 2020, c'est 38 réceptions pour 576 yards et 7 touchdowns. Alors, on parlait de Kyle Pitts, qui est un tight end, qui est un receveur dans la peau d'un tight end, je vais y arriver. Brevin Jordan, on n'en est pas loin quand même. Hein. C'est un joueur extrêmement véloce, mais qui du coup n'est pas forcément dans les standards de la position.
C'est ça, exactement. Lui, c'est carrément un receveur en fait. Hein. Et puis c'est surtout que Miami l'a utilisé comme un receveur. Et il a vraiment très 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 peu d'expérience en tant que tight end sur la ligne. Donc du coup, ça sera à travailler parce que malgré tout, c'est un tight end. Donc il aura cet ajustement-là à faire. Après, comme arme offensive, alors là, il est déroutant. Il est hyper rapide, il n'y a pas de souci, il catche bien les ballons, il accélère une fois qu'il a le ballon dans les mains. C'est une vraie arme offensive.
On va dire que, comme on l'appelle dans l'open field, donc dans les espaces en tout cas, c'est un joueur qui est extrêmement dangereux et qui est capable, en effet, avec une certaine prise de vitesse, de casser des plaquages et de réaliser des big plays un peu à outrance. Si je prends encore une fois une comparaison, est-ce qu'on a affaire à un David Njoku bis?
Ah, il est quand même un peu moins costaud, non? Enfin, oui, peut-être, hein, mais...
Ah, je te demande, on est d'accord. Mais...
Moi, j'irais carrément vers le vrai receveur dans le corps de Titans, qui est Evan Engram. Alors, je sais que quand on parle d'Evan Engram, de suite, on va dire, ah ouais, d'accord, ça va être un bust et tout. Non, pas forcément. Mais c'est vraiment ce type-là de joueur, quoi, qui est vraiment un Titan pour la réception. Et avec beaucoup de travail pour le bloc, et c'est même pas sûr qu'il y arrive, on verra. Mais en tout cas, il peut apporter en réception.
C'est sûr. Donc voilà, surveiller en tout cas Brevin Jordan, projection pour toi?
À fin de deuxième tour. Enfin, au début, tu vois. Après, il peut partir plus loin, il peut partir au troisième.
Ouais c'est un peu là où c'est inquiétant, c'est qu'il n'a pas cette aptitude en un contre un, je trouve, qu'un Kyle Pitts, qui lui, en tout cas, même au duel, peut être extrêmement dangereux. C'est un peu moins significatif pour moi du côté de Jordan. J'irais peut-être vers un troisième tour. Vraiment, si une équipe est amoureuse, fin de deuxième tour. Mais plus sûrement troisième, je pense.
Ouais.
On a fait le tour sur les deux premiers chapeaux, on peut passer à la deuxième partie de l'émission avec les valeurs sûres, les énigmes et les pépites.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Et Et on commence avec les valeurs sûres. On l'a dit, il y a pas mal de profils à surveiller sur le poste de receveur. Et on va détailler tout de suite avec une valeur sûre commune, hein, même si c'est toi qui me l'as soufflé, mon cher Jean-Mi. Elie Djamour, receveur d'Ole Miss. 1m76 pour 83 kg en 2020, c'est 86 réceptions pour 1193 yards et 8 touchdowns. Joueur absolument explosif dans le système offensif des Rebels et de Lane Kiffin, hein, en l'occurrence. On sait que bon, pour développer les attaques, c'est pas trop mal en règle générale. Et Elie Djamour a vraiment été la pierre angulaire de cette équipe. Ma question, du coup, alors déjà, tu vas nous dire en quoi pour toi c'est une valeur sûre, mais est-ce qu'on a affaire à un slot receiver exclusif ou est-ce que ça peut être bien plus?
Ah, je pense que ça peut être bien plus, hein. Alors, les deux gabarits sont très différents, hein. C'est pas une comparaison que je vais faire, mais tu vois, on disait exactement la même chose d'Aji Brown. Quand il est sorti d'Ole Miss, beaucoup disaient, ouais, mais c'est un slot, donc du coup, etc. Et puis, on voit très bien ce que fait Aji Brown avec Tennessee. Il joue, oui, dans le slot, mais il joue aussi à l'extérieur, il fait plein de choses. Et je pense qu'Elie Djamour, ça peut être plein de choses. Alors, c'est pas le même gabarit, évidemment, hein. Je veux dire, il est beaucoup plus léger. D'ailleurs, il a surtout joué dans le slot à Ole Miss. Mais je pense que sa capacité d'accélération, et puis surtout sa fiabilité, lui permettra de faire beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire, sa fiabilité, je parle des mains, qui sont sûrs, qui sont fiables, et je parle aussi de sa qualité de tracé. C'est quelqu'un qui est productif depuis 2 ans, 3 ans avec Ole Miss, et c'est pas pour rien. Il a pas toujours eu les très bons quarterbacks, celui d'Ole Miss, Matt Corral, est plutôt bon, mais il fait aussi des erreurs, et pourtant, Elie Djamour, il produit, et il produit tous les ans. Il a vraiment tout ce qu'il faut pour aller en NFL.
Ouais, c'est ça. Alors après, oui, c'est sûr qu'il y a le physique, en effet, qui joue un petit peu contre lui. C'est sûr que il va pas forcément être efficace sur toutes les phases de jeu, entendons-nous bien. Et c'est vrai que je parlais tout à l'heure de cette capacité à être dangereux dans l'open field. C'est ce qui fait qu'on a beaucoup utilisé Moore, notamment plutôt dans la partie centre du terrain, mais avec aussi des problématiques. C'est que je trouve qu'en termes de tracé, il a peut-être pas vu suffisamment de choses du côté d'Ole Miss. On l'a beaucoup utilisé dans un rôle où il était excellent.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Et où je pense qu'il continuera d'exceller en NFL. Mais voilà, est-ce que c'est suffisamment varié? Là, pour le coup, il va quand même avoir besoin d'un coaching staff, pour lui faire voir un peu plus de choses et du coup de développer un peu plus son panel. Mais il y a quand même pas mal d'armes à disposition, notamment cette explosivité, ces bonnes mains. En effet, je te rejoins là-dessus pour éventuellement être performant à l'échelon supérieur.
Oui, moi je suis rassuré. Tu vois, à l'université, ils sont pas là pour développer les joueurs en fait. Ils sont là pour gagner des matchs. Et vu ce que faisait les Djamour dans le slot, il y avait pas de raison de faire autre chose. Donc du coup, ils l'ont utilisé vraiment là. Mais ça veut pas dire qu'en NFL il sera pas capable de faire d'avoir un panel plus large.
Très clairement. Autre joueur extrêmement explosif, alors que j'ai retenu en valeur sûre, Jalen Darden, receveur de North Texas, 1m76 pour 77 kg. Cette saison avec le Ming Green, c'était 74 réceptions, 1190 yards et 19 touchdowns. Joueur absolument passionnant à voir jouer. Là, dans la NFL moderne, on aime les receveurs explosifs. Alors, je sais pas en l'occurrence s'il sera plus un. Je l'ai mis en valeur sûre en tant que slot receiver dans un premier temps. Faudra voir éventuellement s'il est capable, parce que là, en l'occurrence, il est un peu moins costaud qu'Elie Djamour, et on a déjà évoqué justement ce point qui peut paraître un petit peu rédhibitoire selon les séquences pour le receveur des Rebels. Là, en l'occurrence, Jalen Darden. C'est là encore un couteau suisse, un joueur que tu peux utiliser sur n'importe quelle phase de jeu, mais c'est une machine à première tentative.
Ah oui, exactement, c'est ça. Et puis, tu vois, il a mis 19 touchdowns cette année, il en a mis 12 l'année dernière. Je veux dire, c'est quelqu'un, il sort pas comme ça du chapeau, il produit déjà depuis un bon moment. Et en plus, ce qu'il a, notre avantage, c'est qu'il produit en équipe spéciale.
Oui.
Parce qu'il te retourne les punts et il les retourne très très bien. Et ça, c'est important aussi dans un match. Donc oui, peut-être qu'il sera utilisé dans un premier temps que dans le slot, en attaque, mais il va t'apporter aussi en équipe spéciale. Donc c'est un vrai atout.
C'est ça. Et pour le coup, c'est quand même un joueur, parce qu'on parlait notamment des... Tu parlais notamment d'Ole Miss sur le poste de quarterback. Il y a eu un changement de quarterback avec un quarterback vétéran qui a quitté le campus l'année dernière. Et ça ne l'a pas empêché non seulement de conserver cette marge de progression, mais en plus d'être encore plus dominateur, quoi, je trouve, dans cette attaque. Donc voilà, c'est sûr qu'il aura une opposition un peu plus conséquente en NFL que celle qu'il a rencontrée en conférence USA. C'est forcément quelque chose qu'on va mettre en point négatif, mais ce sera un joueur hyper excitant à avoir joué et il me tarde de le voir en NFL. Je pense qu'il y a pas mal de franchises qui s'en frottent les mains. Je t'avais pas posé la question pour Elijah Moore sur sa projection.
Moi, je le vois au deuxième tour.
Moi je l'avais en 2-3. Donc je te rejoins, je pense que s'il y a une équipe qui est vraiment amoureuse, je suis pas loin. Et encore une fois, je pense que comme on est en NFL et qu'il faut rentrer dans des cases, le côté physique va peut-être le desservir par rapport à d'autres receveurs un peu plus puissants. Mais ouais, deuxième, troisième tour, ça me paraît une bonne indication. Jalen Darden, je l'avais plutôt au troisième. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, c'est ça. Ouais, troisième, voire quatrième. Mais oui. De toute façon, il est électrique. Et comme tu dis, dans la NFL en ce moment, on aime beaucoup ça. Et il y a raison. Donc oui.
Je vous rappelle d'ailleurs au passage, Jalen Darden, j'avais mis dans le top 100, hein, que vous pouvez retrouver également sur le site Touchdown Actu. On avait fait un article notamment avec un big board donc consacré sur les supposés, en tout cas 100 meilleurs joueurs du plateau. Et puis juste pour la transition également, un autre article que vous pouvez retrouver sur le site de Touchdown Actu, c'est notamment les invités au Combine, donc le fameux Combine virtuel cette année forcément de par la crise sanitaire. Il y a à peu près un sixième du contingent des invités au Combine, en tout cas de ceux qui sont mis en valeur, qui sont des receveurs. Donc voilà, sur 11 ou 12 positions, c'est dire un peu l'impact de cette position et à peu près le volume important de joueurs qu'on pourrait retrouver lors de la draft. Et vous verrez que notamment dans le top 100 que j'évoquais, il y en a moult, dont en l'occurrence donc Jalen Darden et Elijah Moore. On termine avec la dernière valeur sûre au poste de tight end. C'est un joueur de Boston College, Hunter Long. 1m98 pour 115 kg, 57 réceptions, 685 yards et 5 TD avec les Eagles. En 2020, joueur qui a pris un impact non négligeable dans cette attaque de Boston College, notamment grâce à ses bonnes mains.
Oui, c'est ça, exactement. Lui aussi, comme Faramos, c'était l'option numéro 1 en attaque de son équipe et il a tout à fait assumé ce choix. Alors Hunter Long, si tu veux, il n'a pas une qualité vraiment extraordinaire, par contre il fait tout bien. C'est-à-dire qu'il est bon en tracé, il est bon en bloc, il est bon en réception, c'est vraiment le joueur fiable par excellence.
J'avais pris l'exemple sur le Slack du site, mais il me faisait quand même beaucoup penser à Dawson Knox, notamment, qui est arrivé très brut hein, en provenance d'Ole Miss. Alors je trouve que Hunter Long a eu une production un peu plus importante encore que ce que pouvait avoir Knox à l'époque du côté d'Oxford. Mais ouais, il y a ce côté, en effet, comme tu dis, un tight end vraiment extrêmement complet, extrêmement valeureux, notamment dans les 1 contre 1, hein, alors qu'il a... Entre guillemets, il paye pas de mine. En tout cas, c'est pas le plus agile sur la position, mais c'est un joueur qui vraiment peut être extrêmement précieux et peut être un numéro 1 assez rapidement en NFL. Surtout que c'est pas une position où on a des tight ends hyper sexy dans chaque équipe. Donc très franchement, ça peut être un joueur à surveiller. Ta projection du même coup?
Quatrième tour.
Ouais, je l'avais troisième, quatrième. Ouais. Pour le coup, il était vraiment aux portes du top 100 qui est sur le site. Donc je suis pas loin de te rejoindre là-dessus. On a fait le tour sur les valeurs sûres, les énigmes à présent, Jean-Michel, avec un nom que tu as très bien choisi, je dois le dire. Simi Fehoko, receveur de Stanford, 1m95 pour 103 kg. Cette saison, donc c'est 37 réceptions, 574 yards et 3 TD. On rappelle, saison de Pac-12 écourtée, c'est le receveur le plus productif, hein, il me semble, du Cardinal cette année. Donc ça explique également pourquoi le chiffre n'est pas forcément hyper impressionnant de prime abord. J'avoue, Fehoko, c'est un profil extrêmement intriguant. Dis-nous en quoi, toi en tout cas, il t'incite à le placer dans les énigmes.
Alors déjà, dans ses plus, il y a deux choses. C'est qu'il est grand, et ça, ça sert, tu vois. Et il est grand et rapide. Donc ça aussi, c'est très très bien. Il me fait penser un peu à Marquez Valdez-Scantling, tu vois, des Packers. Grand, rapide, qui peut attaquer la profondeur. Après, pourquoi c'est une énigme? Alors, sans revenir sur la saison écourtée de la Pac-12, il y a aussi le fait qu'il a joué que 16 matchs en 2 saisons. Il a été que 4 fois titulaire. Il y a aussi le fait que le gars, il a 23 ans. C'est-à-dire qu'en gros, il a 2 ans de plus que la plupart des receveurs qui se présentent. Et c'est parce qu'il est parti en mission, tu vois, c'est un truc de mormon, là, et donc il est parti pendant 2 ans. Alors, c'est bien, ça fera sans doute un jeune homme bien, posé, poli, tout ce qu'il faut, mais du coup, il a peut-être un petit peu de retard, il manque un peu d'expérience. C'est pour ça que pour moi, c'est une énigme, ce joueur. Il a tout ce qu'il faut, mais pour l'instant, on n'a pas encore vu l'étincelle. Mais du coup, 16 matchs joués, 4 fois titulaire, c'est peut-être pour ça aussi. Avec du travail, il peut devenir justement un bon receveur numéro 2, 3. Il m'intrigue.
Ouais, alors moi je t'avoue que d'emblée, je sais pas, encore une fois, mais c'est vrai que la classe de receveur est telle que c'est pas le receveur qui me rassure le plus. Très clairement, d'emblée, c'est vrai qu'il y a beaucoup le côté grand et agile. Et moi, ça m'inquiète beaucoup parce que si tu prends cette comparaison-là, encore une fois, voilà, on va me dire que comparer des anciens d'université, c'est pas forcément une bonne chose, mais là, en l'occurrence, c'est le même système offensif. Il me rappelle quand même un peu J.J. Arcega-Whiteside.
Aïe, ouais. D'accord.
Qui était même encore plus coté, je trouve, à sa sortie de Stanford.
Oui.
Et je pense que même si sa deuxième saison était un peu meilleure que la première, certains diront que c'était pas difficile du côté de Philadelphie. Mais ouais, en tout cas, il a clairement pas rassuré. Et moi, c'est ce qui m'inquiète un peu avec Feoko, c'est qu'on le voit faire des choses phénoménales. Il est capable d'éliminer un joueur en un seul mouvement. Il est capable de faire des catchs à une main sortis de nulle part. Je pense notamment à cette fin de match absolument dingue à Washington où il est vraiment le joueur décisif qui permet d'aller chercher la victoire face aux Huskies. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, on sent qu'il est un petit peu brut, un peu brouillon des fois sur ses interventions. Et c'est vrai que c'est là où je me dis, là pour le coup, c'est vrai qu'on le répète très souvent, mais s'il y a bien un joueur sur lequel l'importance du coaching staff est à souligner, je pense que c'est ce genre de joueur-là.
Oui.
Parce que c'est sûrement un joueur très intelligent, hein. Il sort de Stanford et il n'y a pas de souci. Mais après, voilà, je ne sais pas si niveau QI foot, c'est un joueur qui peut vraiment atteindre des sommets. Et je te rejoins, oui, peut-être pour être un receveur 2-3, mais même pas forcément dans un premier temps. En tout cas, moi, c'est le feeling que j'ai le concernant. Mais c'est vrai que c'est un tel spécimen que ouais, ça ne peut être qu'une énigme à l'heure où on se parle. Vu le peu d'expérience qu'il a à disposition.
Voilà, t'as décrit pourquoi c'est une énigme.
Du coup, tu le mets à quel tour?
Oh, je pense fin 5e, 6e.
Oh, d'accord, ok. Je l'avais 5e.
Oui.
Mais oui, on n'est pas si loin que ça en l'occurrence. C'est un joueur, de toute façon, on ne cherche pas un joueur qui rentre dans une case NFL. Il va être très haut dans certains boards, je n'en doute absolument pas. Mon énigme, alors c'est pas du tout le même profil. Rondell Moore, receveur de Purdue, j'en entends certains hurler dans leur casque, mais non, ça veut rien dire comme phrase. Mais bon, bref, j'entends certains auditeurs s'offusquer. Mais en tout cas, Rondell Moore, c'est 1m75 pour 79 kilos. Avec Purdue cette saison, c'est 35 réceptions, 270 yards et 0 touchdown aussi. Parce que, je parle uniquement à la réception, hein, bien entendu. Aussi parce qu'il y a eu de nouveau, et de manière un peu trop fréquente, je trouve, ces 2 dernières années, des soucis de blessure hein, pour Rondell Moore. Sauf erreur de ma part, c'est un joueur qui a longtemps considéré le fait de se mettre en retrait par rapport à la Covid, qui finalement a choisi de ne pas le faire. Et je ne sais pas si le jeu en valait vraiment la chandelle quand on voit que ça a été de nouveau une saison écourtée. Alors, pour ceux qui veulent éventuellement avoir une idée de ce que donne le spécimen, on rappelle qu'il a eu une saison 2018 absolument dingue, symbolisée notamment par ce match où il a mis en difficulté la défense d'Ohio State lors de l'upset créé par Purdue. Mais ouais, c'est un joueur quand même extrêmement fragile et j'ai du mal à acheter la hype entre guillemets du premier tour. Qu'est-ce que tu en penses, Rondell Moore?
Ah ouais, moi quand je vois dans les mock drafts qu'il est au premier tour, je comprends vraiment pas quoi. C'est-à-dire que sur le talent, bien sûr, c'est un joueur explosif, il est extraordinaire à ce niveau-là, il est électrique, mais il est tellement fragile. Et puis quand tu vois son gabarit et son jeu, tu te dis que forcément il va s'exposer encore aux blessures en NFL avec des défenseurs encore plus costauds. Donc ouais, moi je prendrais pas du tout ce risque au premier tour et je me demande même au deuxième, tu vois.
Oui, c'est ça, parce que alors, pour le coup, Purdue, pour bien contextualiser, entendons-nous bien, ils n'ont pas des quarterbacks fantastiques ces dernières années, très clairement. C'était déjà le cas d'ailleurs, à mon sens, quand Anthony Mangou y jouait. Mais je trouve qu'avec l'arrivée de Jeff Brom, leur head coach, en tout cas, il y a un jeu offensif qui est beaucoup plus porté sur le jeu aérien. Donc justement, on devrait avoir un Rondell Moore vraiment avec des stats... J'allais dire mirobolante, faut peut-être pas exagérer, mais en tout cas beaucoup plus significatif que ce qu'on a ces 2 dernières années. Et là, même si la saison a été écourtée, bon, 35 réceptions pour 270 yards, bon, ben, voilà, mais bon, il n'y a même pas vraiment d'impact au niveau de la end zone pour l'instant. On sait, on le répète encore une fois, que ça peut être un joueur très dangereux dans la prise d'espace. entendons-nous bien, mais c'est vrai que j'ai du mal aujourd'hui. Je pense que ce sera un deuxième tour quasiment sûr. À moins qu'il y ait vraiment une équipe qui fasse all-in, mais ça me paraît difficile.
Oui, c'est sûr qu'il peut séduire, hein. Il a vraiment ce profil électrique, il peut séduire. Mais tu vois, tu parlais de Purdue, il y a un receveur qui est sorti du lot, hein. David Bell, il a tout cassé. Oui. Hein, donc,
Il est passé, il est, en caricaturant un peu, il est passé receveur numéro 2 de Purdue.
Ah ben oui, 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 sans problème. Donc moi, c'est un peu une énigme aussi, je trouve. Comme tu dis, hein, Rondale Moore, je sais pas. C'est super joueur, mais tellement fragile à voir.
C'est ça. J'ai pas une comparaison qui me vient tout de suite en tête, mais ouais, en tout cas, ça. Ouais. Mais c'est un joueur, encore une fois, on se répète, hein, mais on va pas faire 3 heures dessus, mais ouais, sur 2-3 matchs, il peut être. Je parle ne serait-ce que dans sa première année. Hein. Sur 2-3 matchs, il peut être vraiment éblouissant, mais il y aura toujours le côté bombe à retardement qui risquera d'inquiéter et éventuellement d'effrayer certaines franchises. On passe à un tight end maintenant, le tight end de Georgia, Trey McKittie. 1m95 pour 112 kilos. En 2020, c'est 6 réceptions, 108 yards et un touchdown. Là aussi, en termes de production, on repassera. Ancien tight end de Florida State, où niveau stats, c'était déjà pas foufou. Alors, on sait que c'est un joueur qui, lui, pour le coup, a une petite hype, notamment liée à ses prestations en senior bowl. Est-ce que c'est une hype purement athlétique, monsieur Bouger?
Bah exactement. Hein. Je veux dire, comme tu dis, c'est vraiment au senior bowl qu'on a entendu parler de lui, parce que je veux bien que Georgia court plus que ce qu'il passe, etc. Mmh. Mais quand même, 6 réceptions dans l'année, c'est tellement famélique, tu te demandes quoi. Si le joueur, en plus, qui était venu par transfert, donc ils l'ont désiré ce joueur, s'il a été si peu utilisé dans leur système, c'était même pas le tight end le plus utilisé à Georgia. Donc ouais. Moi, ça me pose question, tu vois. En tout, en carrière, il a 56 réceptions. C'est vraiment très très peu. Alors après, oui, il est très athlétique, que ce soit pour les réceptions, que ce soit même dans le bloc, mais c'est vraiment un projet, comment dire, tu te projettes quoi en fait. Tu te dis voilà, avec son potentiel, on va en faire quelque chose. Mais pour l'instant, bon.
Ah oui, c'est ça. Là, on est vraiment dans l'étiquette du fantasme.
Oui, c'est voilà.
Regardez ce qu'il présente comme faculté. On peut éventuellement en faire quelque chose. Maintenant, en termes de production, on s'appuie quasiment sur rien, même si du côté de Georgia, ce sera un bloqueur émérite, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça peut être un très bon numéro 2, numéro 3, éventuellement, en fonction des phases de jeu, en tout cas pour avoir dans des systèmes offensifs avec deux tight ends, on va dire, très, très marqués. Ça peut être un joueur extrêmement, extrêmement intéressant sur le bloc. Mais c'est vrai qu'on part de loin, notamment pour réussir à développer ses facultés en un contre un et son aptitude à la réception.
Ouais, exactement.
Alors, au Senior Bowl, on l'annonçait deuxième, troisième tour.
Ouais.
Pour toi, il va où?
Après, bon, c'est toujours possible, hein, parce que voilà, comme tu le répètes souvent, des fois, il y a des coachs qui se disent « Ah, mais moi, je vais y arriver avec lui, je vais faire un truc de malade. » Donc, c'est toujours possible, il a un gros potentiel, mais ça me faisait halluciner. Parce que, alors, le Senior Bowl, c'est important, je suis le premier à le dire, c'est très important, on y voit beaucoup
encore
de choses.
Encore plus cette année, ouais.
Mais bon, quand même, c'est du Senior Bowl, quoi. C'est des entraînements, c'est un match amical, enfin, c'est… Non, moi, je le vois quand même beaucoup plus tard. Enfin, si je suis GM, je le prends pas avant le quatrième tour. Hein. Il a du potentiel, mais bon…
Bon, ouais. Quatrième tour, ça me paraît raisonnable aussi. Encore une fois, on n'est pas là pour parler de 50 noms, il y en a pas mal déjà dans cette émission. Mais c'est vrai que si on prend le côté bloqueur qui peut performer à la réception, je lui préfère plus un profil à la Tommy Tremble, par exemple, de Notre-Dame. Mais ça, en l'occurrence, on aura sans doute l'occasion d'en reparler d'ici là. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de tight end derrière, justement, le tiercé, voire quatuor de tête avec Hunter Long, où il y a quand même ces incertitudes et où ça apparaît plus comme des paris, notamment dans le domaine aérien, et Trey McKittie en fait partie. On termine avec les pépites, cette émission consacrée aux cibles, et on commence par un receveur d'Alabama, Birmingham, Austin Watkins, 1m86 pour 94 kg, cette saison avec les UAB Blazers, c'est 34 réceptions pour 468 yards et 3 TD. Alors qu'est-ce qui te plaît chez Austin Watkins ? Qui est un joueur relativement complet, en l'occurrence, du côté de ce qu'on en a vu du côté de UAB. Moi, je trouve en tout cas qu'il lui manque ce petit côté, je parlais de cette référence en l'occurrence pour d'autres receveurs. Il y a peut-être également cette référence qui lui manque. Qu'est-ce qui, toi, en tout cas, te laisse penser que ça peut être vraiment une pépite à l'échelon supérieur?
Déjà, c'est le combo taille-gabarit. Voilà, il a une bonne taille, il est costaud, dans les catchs contestés, il est très bon. Déjà, c'est ça qui me plaît. Après, je le trouve plutôt fiable. Alors, il a un arbre de tracé un petit peu limité. Après, c'est sûr qu'au niveau de la compétition, de son opposition, c'était pas extraordinaire. Il est passé par le junior collège, il a pas tout fracassé non plus au junior collège. Et puis là, donc, en conférence USA, c'était pas non plus extraordinaire. Mais voilà, c'est aussi du potentiel. C'est pour ça que c'est un sleeper. c'est quelqu'un que moi je vois bien 5-6e tour, parce que voilà, il a ce combo taille-gabarit qui peut être très intéressant pour une équipe. Quelque part, il me fait penser un petit peu à Michael Gallup des Cowboys, tu vois,
ouais.
qui est arrivé lui aussi de Colorado State, et puis c'était un petit peu, alors il avait une cote un petit peu supérieure, mais c'était un petit peu un projet aussi, et finalement qui s'est bien développé, et maintenant c'est un receveur fiable en NFL. Et je pense qu'Austin Watkins a ce potentiel là d'ici 2-3 ans d'être ce receveur fiable dans une équipe.
Oui, non, je te rejoins encore une fois. Après, c'est pas le joueur qui m'a le plus impressionné. Et on rappelle qu'il sort d'un système où le jeu aérien était pas fabuleux non plus. On s'est beaucoup appuyé notamment sur le jeu au sol. Je parle en tout cas pour la campagne 2020. Et c'est vrai que les receveurs, bon, étaient un petit peu réduits à la portion congrue avec notamment son camarade Myron Mitchell. Voilà, ça se partageait un petit peu le temps de jeu, mais c'est vrai que des quelques flashs qu'on a vu d'Austin Watkins, je pense notamment au match d'ouverture, en tout cas le deuxième match de UAB du côté de Miami, hein, qui a quand même une bonne défense, on en a vu quand même des choses assez intéressantes. Donc voilà, il y a une base de projet, là pour le coup, il y a une production quand même qui est là. Après, en effet, il y a peut-être des attributs que tu citais à développer à l'échelon supérieur, mais voilà, on va dire que il est bon dans beaucoup de domaines. L'idée, c'est de le rendre excellent dans certains. Mmh. Voilà, pour en faire un joueur encore plus poli et peaufiné à l'échelon supérieur. Mais c'est vrai qu'il y a une base, encore une fois, intéressante sur laquelle travailler. Donc, tu avais dit 5e, 6e. Ouais, je l'aurais mis à peu près dans ces eaux-là. Ouais. Dans cette idée. Ma pépite, c'était Shai Smith, receveur de South Carolina, 1m78 pour 84 kilos. En 2020 avec les Gamecocks, c'était 57 réceptions, 633 yards et 4 touchdowns. Alors ça peut apparaître comme un choix un petit peu étonnant, même si ces dernières années les receveurs de South Carolina ont un petit peu la cote. Hein. On rappelle qu'il y a 2 ans c'était Deebo Samuel qui a été drafté par les Niners. L'année dernière c'est Brian Edwards qui avait été récupéré par les Raiders. Donc Chase Smith apparaissait comme la relève en tant que receveur numéro 1. Il y a eu une année un peu compliquée, très clairement, du côté de Columbia, avec notamment beaucoup de déchets offensivement. Ça a d'ailleurs coûté la tête du head coach des Gamecocks. Mais en tout cas, je trouve là aussi qu'il y a quand même des armes, une base de travail avec Chase Smith qui est quand même assez intéressante. Et là, pour le coup, on parlait du Senior Bowl. Je trouve que c'est un joueur qui a quand même marqué des points du côté de Mobile. Donc ça va être très très clairement à surveiller. En termes de tracé, c'est pas celui qui m'impressionne le plus, très clairement, mais je trouve qu'en tout cas il y a une certaine intelligence dans sa manière de faire, hein. Encore une fois, c'est un joueur qui est quand même un peu véloce. On va dire que c'est pas un gabarit dingue, hein, très clairement, j'ai donné ses mensurations, mais il m'apparaît peut-être pas aussi léger justement que ce que les chiffres peuvent laisser penser. Voilà, il y a quand même une certaine dextérité et un certain physique. Là aussi, je vais peut-être en faire hurler à certains, c'est pas grave. Il me rappelle en termes de gabarit et en termes de capacité de développement Antonio Brown, qui était sorti au 5e tour, je crois que c'était Central Michigan à l'époque, c'est à fac.
Oui.
Shai Smith, je trouve, a un profil assez similaire. Encore une fois, il faudra quand même qu'il ait une attaque assez, un minimum en tout cas performante autour de lui, parce que s'il arrive dans une attaque où là encore c'est en déliquescence, ça va pas lui permettre de progresser, mais c'est un joueur encore une fois que je peux voir en tant que numéro 2 crédible assez rapidement. Je te dirais peut-être 2e, 3e année, je le vois en bon receveur numéro 2 capable de vraiment se développer petit à petit, et c'est aussi pour ça que ça me paraissait important de le désigner en tant que pépite. Je pense très clairement ça peut être un 5e tour à l'heure actuelle, un début de 5e tour admettons.
Ah oui, moi ça me paraît bien, et moi je l'aime beaucoup, tu sais, on va dire aux auditeurs, en fait on se consulte très peu avant de démarrer le podcast pour garder un peu de fraîcheur, et moi sur les notes que j'avais prises sur lui, c'était main sûre, parce que déjà il a des mains très sûres, il ne relâche jamais le ballon, et donc ce que j'avais marqué aussi, que tu viens d'en parler, c'est power malgré gabarit, c'est-à-dire qu'effectivement il n'a pas un gros gabarit, mais alors il a une puissance, une résistance au choc qui est impressionnante, c'est-à-dire qu'on parlait d'Elijah Moore tout à l'heure, c'est grosso modo le même gabarit, la même position, mais Shai Smith, il me fait une impression de puissance vraiment supérieure. Et donc oui, moi je pense qu'il a vraiment un avenir en NFL par rapport à ce truc-là, quoi. Il a ce gabarit-là, il n'y a pas de souci, il va aller dans le slot, même des catchs contestés, il va y aller, il va baisser l'épaule, il va rentrer dedans. Moi j'aime beaucoup Shai Smith, ouais, très bon joueur. Je pense aussi 5e tour, parce que forcément il y a quelques limites, que ce soit de gabarit, d'utilisation, mais c'est quelqu'un qu'on verra le dimanche sur les pelouses NFL.
Oui, très, très clairement. On termine avec le tight end à présent en tant que pépite. Quintin Morris, 1m88, 114 kg, tight end de Bowling Green, 20 réceptions pour 248 yards et 0 touchdown. Alors pour le coup, ses stats de 2020 ne mettent pas forcément à l'honneur ce qu'il a réalisé du côté des Falcons. Avec des bonnes campagnes 2018 et 2019, ça a été très compliqué également pour Bowling Green cette année. Mais on reste encore en cette mouvance des receveurs dans les corps de tight end.
Ouais, c'est ça. Il est pas très grand, il est pas très athlétique, c'est pas un bon bloqueur, faudra pas lui demander ça. Mais par contre, au niveau réception, voilà, il est très très bon. Il fait de très bonnes réceptions. D'ailleurs, c'était un receveur au lycée, hein. Il est passé tight end à l'université, il est très rapide. Voilà, c'est quelqu'un pour attaquer. C'est un attaquant. Après, au niveau du bloc, il faudra peut-être pas forcément l'utiliser, ou alors il faudra attendre qu'il se développe avec un peu plus de technique. Mais par contre, ouais, c'est un très bon receveur. Après, voilà, comme tu l'as dit, ce qui joue contre lui, c'est que déjà, il vient d'une petite fac, Bowling Green, qui en plus a fait une très mauvaise saison cette année. Donc, bon, forcément, il y a du travail. Mais c'est quelqu'un que tu peux développer. Alors, moi, je le vois plutôt 6e, 7e tour. Il fera peut-être un 53, mais sinon, il sera de toute façon dans un practice squad, le temps qu'il se développe, justement. Mais il est intéressant. C'est quelqu'un d'assez rapide, voilà, qui peut t'apporter en attaque.
Ouais, très clairement, ouais, dans la zone rouge notamment, ça peut vraiment être un joueur assez précieux. Je te rejoins, ouais, peut-être 6-7e. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, on n'a pas une classe de tight end hormis les principaux. Derrière, ça reste assez homogène. Donc, en fonction de si on cherche un tight end plutôt receveur, essentiellement bloqueur, Quintin Morris peut éventuellement tirer son épingle du jeu et être drafté, être drafté dans les 256-257 en l'occurrence. Donc ouais, j'avoue que c'est un profil qu'on aurait presque pu mettre en énigme en l'occurrence, notamment de par sa dernière saison en contradiction avec les deux précédentes. Mais ouais, il y a vraiment quelque chose d'intéressant avec lui, et ça peut être là encore avec les tight ends, les fameux systèmes à deux tight ends, un joueur qui peut avoir de l'impact assez rapidement en NFL. On a fait le tour, en tout cas, Jean-Mi, pour ce podcast consacré aux receveurs et aux tight ends en NFL. Merci d'avoir été en ma compagnie. On se retrouve donc dans quelques jours pour aborder notamment les joueurs de ligne offensive. Et là encore, il y aura du beau linge, soyez-en sûrs. Merci donc. Restez connectés sur les antennes de Touchdown Actu. J'en profite pour remercier Alain Mattei qui était à la technique. Et on se retrouve donc dans quelques jours pour détailler et finir notamment le secteur offensif à l'orée de la prochaine draft. Salut à tous. À plus.
Salut.
Analyse, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Fismode pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.